et d'amorcer une étonnante affaire politico-policière.
Rendez-vous avec X tous les samedis à 13h30 sur France Inter.
France Inter, la différence.
C'est l'heure de la bassie, j'y suis avec Daniel Mermet et son répondeur.
Spleen, avec la ficelle de son string, qui bien tendu semblait m'attendre, j'ai décidé, un soir de spleen, insupportable de me pendre. Lorsque je lus autour du cou, fine parure de ma détresse, une voix me dit, faut être fou pour renoncer à deux belles fesses. C'était le poète dépressif, salut.
Bonjour Daniel, c'est Mireille dans le Haut-Rhin. Aujourd'hui, jeudi 9 février, visite de Sarkozy à la centrale de Fessenheim en zone frontalière. Visite à huis clos, bien sûr. 200 communes d'Alsace, de Suisse et du Bade-Württemberg voisin, c'est-à-dire 1 600 000 habitants de la région, demandent la fermeture de cette centrale vétuste, construite en zone sismique. Il y a quelques siècles, un violent tremblement de terre a détruit entièrement la ville de Bâle, à quelques dizaines de kilomètres. Et pour construire cette centrale, les ingénieurs ont estimé l'intensité du tremblement de terre à partir de gravures d'époque, au pifomètre, quoi. C'est ce qu'on appelle, ou c'est ce qu'ils appellent, la rigueur scientifique. La centrale est construite, au dire même de l'autorité de sûreté nucléaire, sur un radier trop mince, à quelques mètres en dessous, la plus grande nappe phréatique d'Europe, une grande réserve d'eau douce. Et en cas de fusion, en 2 jours, ce réservoir d'eau douce serait irrémédiablement pollué, avec le Rhin en plus. Et que devrait payer la France en ce cas? C'est-à-dire nous? Que devrions-nous dire aux voisins? Merci à Messmer, Giraud, Sarko et toute la bande des aveugles nucléocrates de nous polluer l'avenir.
Ah, Daniel, elle est super cette émission. Si ça pouvait être vrai, si le prochain gouvernement pouvait être comme ça, ce serait trop beau. Vraiment, on croit rêver. Allez, bonne journée.
Oh là là, c'est très 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 bon cette émission. Alors là, merci Daniel, merci toute l'équipe de la Basse Chichi. Une émission comme ça, ça fait plaisir, ça fait jouir, c'est extraordinairement jouissif. Merci, merci, merci. Ah, si seulement ça pouvait être ça d'ici le mois de mai. J'ai des frissons partout, c'est extraordinaire. C'était Cyril de Arles, ciao.
Excellent cette émission sur l'alter-gouvernement. Alors, je ne sais pas si demain on va entendre Franck Lepage, ministre de la Culture, mais je ne serais pas étonnée qu'il nous annonce tout simplement la dissolution du ministère de la Culture. J'attends avec impatience et je regrette pour une fois de vivre en province et de ne pas pouvoir aller à Paris vendredi pour rencontrer et écouter l'alter-gouvernement au DAL. Bon, la lutte, elle existe aussi dans les petits bleds et je vous assure que c'est pas triste. C'était Anne du Morbihan, salut à tous.
Régis de Froidfond, j'appelle pour féliciter Daniel, merci. Merci pour ce grand moment de radio qui nous a permis à nous, qui sommes des utopistes, de pouvoir y croire un petit peu. C'était un grand moment de bonheur, merci. Vraiment merci du fond du cœur. Allez, bis à tous.
Bonjour Daniel Mermet, bonjour toute l'équipe. Moi j'ai dit qu'un miracle est encore possible, c'est magnifique, c'était un plaisir de vous écouter, on en redemande. Merci. Thierry de Saint-Georges-Motel dans l'Eure.
Salut Mermet, salut l'équipe, salut les auditeurs. J'ai goûté avec beaucoup de gourmandise l'émission du jour, donc le miracle, le bien nommé miracle, avec l'avènement d'un gouvernement d'essence populaire en fait, formidable. Ça donne tout simplement la différence entre le possible, si l'on s'en donne les moyens, si l'on décidait, et puis la réalité qui est l'affligeante réalité que l'on vit aujourd'hui. Et je pense que ces gens d'émission ouvrent les yeux et quelque part dressent des perspectives, même si, bien sûr, elles s'inscrivent dans une démarche aussi un peu potache, bien sûr, et rien ironique, mais voilà, il y a quand même une dimension extrêmement sérieuse là-dedans, et moi, personnellement, ça me plaît énormément, ce genre de démarche.
C'est une émission qui nous rappelle qu'il y a un joli mot dont on n'entend plus nulle part l'explicitation, c'est le mot utopie. Utopie, voilà. Ça nous montre ce qu'il peut y avoir une utopie dans ce bas monde, alors que justement toute la caste politique, tout le poids qu'elle a, toute la richesse qu'elle a, toute l'invulnérabilité qu'elle a réussi à capter, eh bien c'est pour nous démontrer qu'il n'y a pas d'utopie possible au sens où nous-mêmes, nous pouvons inventer nos possibles, nos demains qui seront chantant ou pas, mais au moins ce sera quelque chose que nous aurons inventé. S'il y a quelque chose que les êtres humains partagent entre eux, c'est la solidarité et la capacité créatrice. Voilà quoi. C'était Alain de Saint-Étienne du Rouvray.
Eh bien, merci pour tous ces messages, chers AMG, auditeurs et auditrices modestes et géniaux et géniales. Eh bien, on continue aujourd'hui. Nous sommes le 6 mai 2012, je vous le rappelle. Et surprise extraordinaire, contre toute attente, tous les plans ont été, sont tombés à l'eau, tout est tombé à l'eau, les prévisions, les sondages, les analyses, tout est tombé à l'eau. Finalement, c'est le gouvernement du miracle qui prend le pouvoir, le mouvement indépendant pour une réelle alternative citoyenne avec 55% des suffrages. C'est un grand coup de balai, c'est un grand coup de vent frais, c'est le French Spring, c'est le printemps français qui s'installe dans notre pays et qui étonne le monde. Alors ils sont 18 ministre citoyen dans ce nouveau gouvernement, cet alter-gouvernement. Nous en avons découvert 3 hier et aujourd'hui, à nouveau, nous allons rencontrer 3 de ces nouveaux ministres citoyens qui vont tout simplement nous expliquer, nous exposer quelle sera leur politique. Ne faites pas de rêves médiocres, ce sont les plus difficiles à réaliser, disait un certain Charles de Gaulle. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Mermet, bonjour cher AMG. Hier sur TF1, j'ai vu notre cher président, M. Sarkozy, a reçu le soldat franco-israélien Gilad Shalit. Bah, c'est bien, c'est normal, c'est en français. Maintenant, j'attends quand est-ce qu'il va recevoir l'étudiant Salah Hamouri. C'est en français quand même. Allez, portez-vous bien. Bonne journée à tous.
Infirmière au centre hospitalier Guillaume Régnier, établissement public de santé mentale à Rennes, vous informe qu'un mouvement de grève a débuté le mardi 7 février 2012 à l'appel de l'intersyndicale Sud-CGT-CFDT. Le CHGR a vu diminuer ses capacités d'hospitalisation. Il en résulte des conditions d'hospitalisation indignes du service public. Nous avons dû installer des patients sur des matelas à même le sol. Des patients changent jusqu'à 5 fois d'unité au cours de leur hospitalisation. Il arrive qu'il y ait 30 patients dans une unité d'admission psychiatrique qui a une capacité de 24 lits. L'adjointe au maire de la ville de Rennes nous soutient. Il semble qu'il n'y ait que l'ARS qui fait la sourde oreille. Tous les après-midi, une assemblée générale a lieu à l'entrée du CHGR. Nous vous invitons à venir nous voir, à signer la pétition, à nous soutenir. Émilie, infirmière du centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes.
Salut à tous. On entend en ce moment beaucoup parler, là, à travers la campagne et les médias, du modèle allemand, ce fameux modèle allemand que tout le monde devrait suivre en Europe, et notamment nous. Alors, pour ceux qui ont la mémoire courte, je leur rappelle qu'il y a eu plusieurs modèles auparavant. On a eu le modèle argentin, bon, qui s'est effondré. Vous pouvez vous renseigner là-dessus. On a eu le modèle japonais, bon, il s'est effondré aussi. On a eu le modèle irlandais, bon, l'Irlande, voilà, s'est effondré. Et puis on a eu le modèle anglais. D'ailleurs, les gens qui iront voir le film Les nouveaux chiens de garde de Gilles Balbastre verront comment très habilement Gilles Balbastre nous explique ce qu'était le modèle anglais tel qu'il était présenté par les médias français il y a des années et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc je suis désolé pour nos amis allemands, mais restez pas modèle, dans l'ensemble ça finit mal. Ciao, viva, portez-vous bien.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Monsieur
Philippe Lémarie,
ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Madame
Suzanne Georges,
ministre des Affaires étrangères et européennes. Madame
Geneviève Azam,
ministre de l'écologie. Madame
Clarisse Taron,
garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés. Monsieur
Laurent Mucchielli,
ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Monsieur
Jean-Marie Haribey,
ministre du Travail, de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Monsieur
Franck Lepage,
ministre de la Culture et de la Communication.
Madame et Monsieur Monique et Michel Pinson-Charlot,
ministre de la Réforme de l'État. Le président de la République réunira le Conseil des ministres avec l'ensemble des membres du gouvernement ce mercredi à 10h. Je vous remercie.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas et j'y suis avec Guy Ventil, 6 mai 2012. Le libéralisme est foutu.
Flight number 2, arriving from New York.
Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer.
Pour moi, ça va pas bouger. À part les blabla qui changent, mais. Il n'y a rien d'autre qui change, quoi.
On ne peut pas savoir, ça dépend s'il y a une cohésion, une véritable politique cohérente.
Ah, et ça me déçoit beaucoup. Hein. Ouais.
Pourquoi ça vous déçoit, monsieur?
Parce que ça n'a pas de sens, hein. Ça n'a pas de sens du tout.
Ça pourrait être une bonne chose, je ne connais pas très bien leurs idées.
Je vous avoue, j'ai aucune idée sur la question, là. Franchement, on me prenait au dépourvu. Moi, à cette heure-ci, s'ils pouvaient me trouver un boulot, ce serait bien.
Moi, je mets toujours en exemple les gens qui sont contre. C'est en 36, il n'y avait pas eu tout ce qui s'est passé. On n'aurait pas les congés payés, on n'aurait pas ci, on n'aurait pas ça. Donc c'est important. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne... Je sais pas, il ne faut pas que ça soit pourri, quoi. Il faut que ce soit vraiment des idées, de belles idées.
Et oui, rien ne s'est passé comme prévu. Le président sortant et son concurrent le plus sérieux, du moins selon les médias et les instituts de sondage, ont été tous deux balayés par un grand souffle d'air frais, en toute légalité, sans violence. Le peuple français vient d'accomplir une nouvelle révolution. Le MIRAC, mouvement indépendant pour une réelle alternative citoyenne, qui s'est constitué en quelques mois autour des idées de justice sociale, de participation citoyenne et de responsabilité vis-à-vis de la planète et des générations futures, s'est rapidement imposé comme le fer de lance de ce que l'on appelle désormais le printemps français. Le candidat qui a désigné pour l'élection présidentielle s'est lancé dans la course début mars, juste avant la date limite de dépôt des parrainages. Le 6 mai, après une campagne marquée par un véritable enthousiasme populaire, il a remporté le second tour avec plus de 55% des suffrages. Très vite, un nouveau gouvernement est formé. C'est une première dans l'histoire de la Ve République. Aucun des ministres n'est politicien de métier. Tous sont de simples citoyens et citoyennes. Et tous ont à cœur de montrer aux Français qui les ont élus que le libéralisme débridé de nos sociétés d'aujourd'hui n'est pas une fatalité. Immédiatement, l'action gouvernementale se met en place. Elle confirme qu'une réelle alternative sociale et démocratique est possible et qu'elle est en train de se réaliser. Alors nous allons tout de suite, parmi ces nouveaux ministres, citoyens ministres de cet alter-gouvernement, rencontrer la nouvelle garde des Sceaux, Clarisse Taron, au micro de Guy Ventil.
Madame la ministre, Clarisse Taron, je vous retrouve à l'occasion de cette entrée en fonction en tant que garde des Sceaux. D'abord, un petit mot presque people. Qu'est-ce que ça fait ? Vous étiez jusqu'à peu procureur adjoint à Metz, au tribunal de Metz, qu'est-ce que ça fait de se retrouver de l'autre côté? Vous qui avez été longtemps une syndicaliste, critiquant vos prédécesseurs, maintenant vous voilà aux commandes.
Ça fait évidemment plaisir parce qu'il est temps qu'on puisse mettre en œuvre ce qu'on a préconisé depuis longtemps et dont on dit que c'est possible. On va pouvoir prouver qu'on n'est pas des utopistes et qu'on peut rendre la justice autrement dans ce pays.
Un des constats que vous avez fait en rentrant au ministère de Justice et de Liberté, c'est que la justice française était en crise.
Malheureusement, elle est vraiment en crise, elle l'est depuis des années. Sauf que cette crise s'est encore aggravée tout à fait récemment. Et je souhaite dans ce ministère qu'effectivement, on rende une justice pas uniquement rapide et importante au volume, mais une justice de qualité que nos concitoyens comprendront et à laquelle ils pourront, autant que faire se peut, adhérer. Donc, un de nos grands thèmes d'action qu'on va mettre en œuvre très rapidement, c'est d'abroger un certain nombre de dispositions complètement folles qui ont été votées par le précédent gouvernement. C'est supprimer le recours aux peines planchers, vous savez, ces peines automatiques importante prononcée contre des délinquants en récidive et qui ont fait la preuve sur le terrain de leur inutilité parfaite et en plus de leur caractère absolument choquant. Nous voulons nous engager sur le plan pénal, sur une vraie décroissance pénale.
Oui, parce que j'ai parlé avec vos collègues ministres qui me parlaient de décroissance économique, décroissance énergétique, mais alors vous aussi, vous êtes du même tonneau.
Oui, on est du même tonneau et c'est heureux, je pense, dans un gouvernement qu'on soit tous du même tonneau. La décroissance pénale, ça nous paraît très important. On a passé son temps dans les précédents gouvernements à pénaliser des comportements, à pénaliser la militance et le mouvement social. Il nous paraît donc tout à fait possible aujourd'hui de renoncer à des lois pénales, notamment pour mettre en cause le comportement de nos concitoyens. Il y a aussi, évidemment, une autre attitude à avoir sur tout ce qui est la politique des drogues dans ce pays. La guerre à la drogue est un échec. Les États y dépensent des millions et des millions. Le système prohibitionniste a montré ses limites. On n'est pas pour la consommation de stupéfiants, hein, faut pas rêver, mais il nous semble qu'il y a des prises en charge autres que celles de la justice pénale pour les gens qui souffrent d'addiction. Il y a plein de domaines, toutes ces nouvelles infractions qui ont été créées ces dernières années, comme la pénalisation du racolage, la pénalisation de la mendicité, la multiplication des circonstances aggravantes. Il n'y a pratiquement plus de violence simple maintenant. Si on est en état d'ivresse, c'est aggravé. Si on est dans un bus, c'est aggravé. Si on est dans une école, c'est aggravé. Tout ça, on peut rendre une justice plus lisible et plus simple pour nos concitoyens.
Au standard, je crois que nous avons une question de Jean-Philippe. Jean-Philippe, nous vous écoutons.
Oui, bonjour Jean-Philippe de Seine-Maritime. J'avais une question pour Madame la Ministre de la Justice. J'aimerais bien que Madame la Ministre nous explique comment elle compte rendre une justice plus équitable après toutes les attaques du précédent gouvernement sur l'indépendance de cette institution. Merci beaucoup pour votre réponse.
Clarisse Taron, que répondez-vous à Jean-Philippe qui pose des questions sur l'indépendance de la justice? Je crois savoir que c'est un des grands chantiers de votre gouvernement.
Oui, on veut à la fois que cessent les pressions du pouvoir politique sur les juges. Alors, on a beaucoup parlé, sous les gouvernements précédents, des pressions exercées sur les procureurs. Mais
Vous étiez procureur, donc vous étiez bien placé pour pouvoir dire si c'est vrai ou pas.
Oui, je n'étais que procureur adjoint, mais j'étais quand même bien placé pour le savoir. Effectivement, il y a, notamment dans les affaires sensibles, une telle crainte des politiques qu'on ne peut absolument pas laisser les procureurs faire leur travail. Moi, je m'engage à ne plus donner d'instructions dans les affaires individuelles, ni des instructions écrites, ni ces instructions téléphonées, auxquelles certes des procureurs courageux pouvaient renoncer, mais qui, par le biais de la gestion des carrières, étaient évidemment encore plus efficaces que des instructions écrites dont un procureur pouvait faire état.
Ça, je ne pense pas. Je ne sais pas pourquoi, je pense tout de suite à un nom de Liliane Bettencourt qui me vient en tête à cette occasion.
Eh oui, par exemple, on peut y penser. Effectivement, nous avons pointé, quand j'étais au syndicat de la magistrature, les dérives du pouvoir dans cette affaire et la collusion qui existait entre le procureur de la République de Nanterre, pour ne pas le nommer, et les politiques dans l'affaire Liliane Bettencourt. Ça n'est plus possible. C'est-à-dire que nous ne sommes pas forcément contre le fait que les procureurs applique une politique déterminée par le gouvernement. Et je vous le dis d'autant plus que si je suis au gouvernement maintenant, je souhaite pouvoir donner des orientations à une politique sous le contrôle du Parlement. On est dans un État qui fonctionne comme ça. Sauf que si on n'agit pas de manière tranchée sur cette question, le soupçon de collusion demeurera. Il faut absolument que ce soupçon disparaisse pour que nos concitoyens reprennent confiance dans la justice, qui est quand même essentielle.
Merci Madame la Ministre. Alors une autre question du côté du Standard à poser à Clarisse Taron. Je répète que vous êtes ministre de la Justice dans ce nouvel alter-gouvernement.
Oui, bonjour Madame la Ministre, bonjour Messieurs. Alors moi je voudrais juste apporter un témoignage. Je suis surveillant pénitentiaire depuis maintenant 10 ans. Et là vraiment c'est plus possible, il y a trop de détenus quoi. On était à plus de 64 000 détenus en novembre avec une capacité de 50 000 places. Écoutez, là ça va péter, qu'est-ce que vous comptez faire ?
Madame la Ministre, que répondez-vous à ce surveillant de prison qui peut-être recoupe une partie de vos déclarations pendant la campagne concernant la surpopulation carcérale ? Vous vouliez sortir, disiez-vous, de la logique du tout carcéral. Alors va-t-on, c'est notre question, sortir un jour ou l'autre du tout carcéral et fermer les prisons ?
On n'ira sûrement pas vers la fin de la prison, pas de manière complète, mais on peut chercher à vider les prisons. Les prisons sont remplies de gens qui n'ont rien à y faire, soit parce que ce sont des gens pour lesquels il faudrait une prise en charge sociale, soit parce que ce sont des gens pour lesquels il faudrait d'autres moyens de peine. Il faut que la prison demeure le dernier recours, ce qu'elle était sous l'ancien gouvernement théoriquement dans les textes. On disait beaucoup, la détention provisoire est exceptionnelle, il faut chercher autre chose. Oui, on sait que la prison est criminogène, on cesse de le répéter, cherchons autre chose avant que les gens rentrent en prison. Multiplions les sites susceptibles d'accueillir des gens qui sont condamnés à des peines de travail d'intérêt général. Multiplions les prises en charge à l'extérieur. Une des grosses causes de la délinquance, c'est quand même la misère sociale. Et il suffit de se rendre sur ce qu'étaient les audiences correctionnelles autrefois pour constater que dans l'ensemble, les gens qui comparaissent devant un tribunal sont des gens qui sont en grande difficulté. Alors certes, enfin moi je ne nie pas que le droit pénal a un sens et que les règles de la vie en société peuvent être rappelées par ce biais. Simplement, la réponse peut être beaucoup plus intelligente. Il faut évidemment incarcérer moins, incarcérer mieux, dans de meilleures conditions. Il faut que les gens rentrent moins en prison et que quand ils y sont, ils y bénéficient de droits. Ce n'est pas parce qu'on est incarcéré qu'on est privé de ses droits de citoyen et qu'on doit pouvoir rétablir en détention et dans certaines structures qui ne seraient même plus des prisons au sens où on l'entendait autrefois, les droits des détenus, ce qui, s'ils se réapproprient leur vie citoyenne, les aidera forcément le jour où ils seront amenés à vivre de nouveau parmi nous. Parce que ça aussi, je veux dire, la rétention de sûreté, par exemple, qui consiste à dire on va garder enfermé quelqu'un, ce qui était le cas sous l'ancien gouvernement, même à l'expiration de sa peine, parce qu'on ne veut plus de lui dans la société, ça n'est pas possible. L'essence même du droit pénal, c'est de dire quelqu'un a été condamné et après, une fois qu'il a purgé sa peine, une fois qu'il a accompli la sanction, il reprend sa place dans la société et c'est ce vers quoi il faut tendre.
Mais est-ce que vous ne pensez pas reprendre à rebrousse-poil ainsi une partie de l'opinion publique qui avait été quand même assez encouragée dans ce sens-là par le gouvernement qui parlait du droit des victimes ? La justice, c'est pour le droit des victimes, la réparation des victimes. Et vous me parlez de droit des détenus et des coupables.
Alors, il y a eu une exploitation du droit des victimes sous le précédent gouvernement. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'il y a longtemps, les victimes ont été les oubliées du procès pénal et il était normal de leur redonner leur place que nous voulons conserver, évidemment. Il est important que la victime soit entendue. Mais, contrairement à ce qui a été tenté par le précédent gouvernement, juste avant qu'il chute, il ne s'agit pas de donner à ces victimes la place du ministère public. La victime est une partie au procès. Elle est une partie importante, elle est une partie essentielle, mais elle est une partie au même titre que l'auteur. Et il est important que le juge conserve cet équilibre entre la parole de la victime et la parole de l'auteur. On a essayé de faire passer l'idée que la victime pouvait faire appel de toutes les remises en liberté du détenu. Ça n'a pas de sens. Évidemment qu'on ne peut pas demander à une victime d'abord de juger et d'être d'accord avec la mise en liberté de son agresseur. Et je l'entends bien, si moi-même je suis victime, par définition, je ne jugerai pas. Donc, il ne s'agit pas de flouer les droits des victimes, il s'agit de les entendre, mais il s'agit de laisser à la justice la possibilité de faire son travail en conservant les droits de toutes les parties. Et c'est ce vers quoi nous nous dirigeons et nous nous dirigerons le plus rapidement possible.
Une autre question au Standard.
Oui, bonjour, merci de prendre ma question. Moi, mon fils qui a 18 ans a fait 24 heures de garde à vue pour outrage à agent. Beaucoup de ses amis ont également fait un séjour en garde à vue de manière totalement abusive. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une justice à deux vitesses. D'une part, une répression très forte pour des délits mineurs avec comparution immédiate et sanctions. Et d'autre part, un laxisme en ce qui concerne la délinquance en col blanc. Alors, ma question à Mme Taron, c'est est-ce qu'elle compte rétablir une justice égale pour tous ? Merci.
Alors, Mme Clarisse Taron, y a-t-il bel et bien une justice à deux vitesses dans notre pays entre les petits délits et la criminalité en col blanc, c'est-à-dire la criminalité économique et financière ?
C'est parfaitement exact. Alors, évidemment, il faut arrêter de s'intéresser à cette petite délinquance qui, là encore, est la traduction de la politique du chiffre au ministère de l'Intérieur. Mais mon collègue ministre de l'Intérieur est sur la même ligne que moi. Je ne suis pas très inquiète sur cette question. C'est-à-dire qu'il est important qu'on arrête de relever des infractions ridicules. La multiplication des outrages dont vous parliez, c'est un phénomène absolument éclairant de cette situation. C'est-à-dire qu'un outrage, c'est élucidé au moment où c'est commis, évidemment. Et forcément, un outrage, c'est facile. Et ça ne demande pas beaucoup de travail pour avoir une affaire élucidée. Et si cette infraction est relevée, et même pendant qu'on fait cette procédure pour outrage, on ne fait pas une autre procédure parce que les services de police ou de gendarmerie n'ont pas des capacités extensives à l'infini. Donc, on peut lutter contre cette politique-là et se recentrer sur des infractions graves. On parlait de la délinquance en col blanc. Elle n'était plus traitée sous le précédent gouvernement. Pour la simple et bonne raison qu'on avait choisi de ne plus donner de moyens aux policiers et aux gendarmes pour faire ces enquêtes-là, c'est quand même la meilleure manière de les enterrer. Alors évidemment, quand on jugeait une affaire de délinquance économique et financière 8 ans après les faits, quand l'auteur des faits était retraité et repentant et bien défendu, il y avait toute chance que la réponse judiciaire ne soit pas à la hauteur des faits commis. Nous voulons redonner les moyens d'une vraie justice économique et financière dans ce pays parce que effectivement, ces infractions ont des conséquences sur la vie économique et sur l'équilibre de la société et vont à l'encontre de ce que nous recherchons.
C'est la question à laquelle j'allais venir, justement, pour finir, Madame la Ministre. Tout ça va risque de coûter une fortune. Et c'est ce que je me heurte à chaque ministre que je rencontre en disant « Mais vos programmes, en période de crise de la dette, de crise des finances publiques, est-ce qu'on ne va pas dans le mur, financièrement ?»
Alors d'abord, tout ne va pas coûter. Quand on vous parlait de décroissance pénale, quand on vous parle de meilleur accueil, il y a aussi des pratiques à changer chez les gens qui ne seront pas forcément onéreuses. Par ailleurs, je vais me battre auprès de mon collègue des finances,
Monsieur Haribey,
lui-même, parce que si on veut donner une place importante à la justice dans la démocratie, la justice n'est pas tout à fait un service public comme les autres quand même, et je crois que c'est essentiel, je pense que c'est un pilier d'une démocratie, il faudra effectivement dégager quelques moyens pour la justice. Ceci étant, vous savez qu'actuellement, juste avant qu'on arrive au pouvoir, mais parmi les pays européens, la France se situait dans le peloton de queue sur la part financière du budget de l'État accordée à la justice. Nous étions 37e sur 43 pays européens. La France avait 3 fois moins de procureurs que l'Allemagne. La France avait 2 fois moins de juges que l'Allemagne. La France était dans une situation telle que si on avait arrêté toute entrée d'affaires judiciaires dans les tribunaux, il lui fallait jusqu'à il y a peu 286 jours pour écluser son stock.
Imaginons que s'il n'y avait aucun crime et aucun délit qui permettent de rendre possible de traiter les affaires en cours, oui, ça nous prendrait presque une année, enfin 2/3 d'année.
2/3 d'année pour voir le jour dans les juridictions. Alors, nous pensons qu'il y a des gains à obtenir dans tout ce qui est décroissance pénale dont je vous parlais tout à l'heure. Si on arrête de poursuivre des infractions qui n'ont pas de sens. Si on arrête d'incarcérer pour rien des gens, ça va coûter moins cher. Une prise en charge d'un condamné à l'extérieur est moins chère qu'une prise en charge pris de journée en détention. Donc, nous pensons qu'il s'agit d'abord de réorienter mieux les dépenses faites pour la justice et qu'il s'agira sans doute aussi de donner quelques moyens à l'institution, mais je n'ai pas le sentiment que ce que nous allons faire soit infaisable et nous allons le prouver.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vous laisse parce que là, il y a toute une réunion qui vous attend.
Oui, c'est important. Il faut qu'on mette ces choses en place très, très rapidement. Mais j'ai le sentiment que ce gouvernement tel qu'il a été conçu a une cohérence qui va nous permettre de marcher ensemble dans le bon sens.
Merci beaucoup.
Voilà, édition spéciale, premier intergouvernement, 6 mai 2012, victoire du mouvement indépendant pour une réelle alternative citoyenne. Alors nous étions avec Clarisse Taron, nouveau ministre de la Justice et ex-présidente du syndicat de la magistrature. Et maintenant nous allons rencontrer le nouveau ministre citoyen de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, c'est d'abord la police. Et peut-on concilier police et utopie ? C'est un défi pour cet alter-gouvernement et pour Laurent Mucchielli, le nouveau ministre de l'Intérieur. Nous retrouvons Guy Ventil avec son invité après ce reportage.
Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Je trouve qu'ils ne sont pas trop considérés, on crache sur eux. Quand ce n'est pas bon, c'est la police, il a fait ceci, il a fait cela. Ce n'est pas facile pour eux aussi. Hein. Ils devraient être mieux payés.
C'est grave. Tout ce qui est police et tout ce qui est un problème de sécurité, il y a beaucoup de choses à revoir.
Tout sécuritaire là, c'est pas bon pour l'avenir ça, tout ça, c'est pas très bien.
Moi je me sens bien, je me sens pas agressé, je vois pas l'utilité d'être surveillé partout, d'avoir Big Brother au-dessus de moi.
J'ai jamais eu de problème, ils ont eu affaire à des flics partout, ça continue.
Peut-être qu'il faudrait développer peut-être une police de proximité pour assurer peut-être une plus grande sécurité.
Au niveau de la police de proximité, si c'était juste pour faire de la répression et pas de prévention, pour moi ça sert pas à grand chose.
Moi j'ai une gamine qui s'est fait agresser, donc croyez-moi, bon maintenant elle est plus grande, donc je peux pas vous dire que je me promènerai, enfin que je la laisserai se promener tranquillement le soir. On a toujours la crainte quand même.
Quand on regarde au fond, la sécurité est forcément liée aux conditions sociales, aux conditions de vie. Or, on ne fait rien pour améliorer les conditions de vie, justement, de tout le monde, enfin, je dis à la fois des jeunes et des personnes âgées. Donc, forcément, ça crée un climat qui n'est pas forcément un climat serein. Qu'est-ce qu'on fait pour le social et la sécurité ?
Laurent Mucchielli, bonjour.
Monsieur
le ministre, bonjour. Excusez-moi, j'ai pas encore l'habitude. On vous retrouve en direct depuis les studios de France Bleu Gare-Lozère à l'occasion de votre premier déplacement en tant que ministre et de votre entrée en fonction. Vous avez choisi l'école de police de Nîmes où vous êtes allé saluer la nouvelle promotion de policiers et vous adresser à eux. Alors, vous étiez sociologue jusqu'alors, vous voilà maintenant premier flic de France. Alors, quel est le message que vous avez voulu passer aux nouveaux gardiens de la paix ?
Absolument, monsieur. Il y a à Nîmes une école de formation de la police nationale qui forme les gardiens de la paix, les policiers de base. C'est donc à eux que j'ai souhaité transmettre le message qui est d'abord celui de l'ensemble du gouvernement concernant les questions de sécurité, à savoir que l'ensemble des policiers et des gendarmes, que j'irai voir d'ailleurs dès demain matin, sont avant tout là pour assurer la sécurité de nos concitoyens dans la vie quotidienne et non pour décliner les priorités du moment en termes d'ordre public qui sont posées par l'État, pour protéger l'État, pour assurer l'État, assurer la politique d'État telle que nous avons pu voir ces dernières années. Les policiers, les gendarmes ne sont pas simplement des techniciens du code de procédure pénale, je dirais. Ce sont également des hommes et des femmes qui ont une mission sociale générale à laquelle il faut qu'ils soient préparés, formés et valorisés.
Laurent Mucchielli, une question d'un policier qui souhaite garder l'anonymat et qui nous demande, Jean-Claude dans la Somme, qui nous demande qu'en est-il de la politique du chiffre ?
Cette politique du chiffre est, à compter de ce jour, abolie. Et je suis heureux que ce policier pose cette question. Alors cette politique qui consistait encore une fois à juger des statistiques, à juger les gens sur du papier et sur des chiffres, cette politique est abolie. Nous allons au contraire remettre la qualité du travail policier au cœur de l'analyse. Et si, et c'est le cas, les outils statistiques qui sont aujourd'hui à notre disposition ne suffisent pas pour évaluer la complexité, l'importance du travail policier, alors nous allons en inventer d'autres.
Par exemple,
je vais vous prendre un exemple très fort, mais très simple. Aujourd'hui, le policier ou l'équipe de policiers qui, s'ennuyons, disons les choses, la nuit, va tourner, va apercevoir trois jeunes sur un banc public, ou trois moins jeunes d'ailleurs, sur un banc public, en train de fumer un joint, eh bien ces policiers vont faire des procédures qui vont faire des procès-verbaux qui vont être élucidés, bien entendu. Ce sera merveilleux dans la culture du chiffre.
Bah oui, c'est une réussite.
C'est une réussite pour la culture du chiffre, puisqu'ils auront élucidé en même temps qu'ils constataient les procédures, 100%, remarquable. À côté de ça, un policier va peut-être passer plusieurs heures, voire plusieurs jours s'il a des récupérations derrière, parce qu'au terme d'un geste héroïque, il aura, par exemple, sauver ou tenter de sauver quelqu'un de la noyade, eh bien une action aussi importante, aussi forte, aussi déterminante, aujourd'hui tout simplement ne sera comptabilisée nulle part. Ça ne rentre pas dans les chiffres.
Puisqu'il n'y a pas
c'est
eu d'élucidation.
C'est ce genre d'absurdité voilà, auquel nous allons mettre fin.
Beaucoup de questions qui continuent d'arriver au standard de France Inter. Une question, je crois, de Marine dans les Hauts-de-Seine. C'est bien cela ?
Marine, oui, bonjour, Marine des Hauts-de-Seine. Merci de me donner la parole. Voilà, ma question concerne l'une de vos 21 propositions, monsieur le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence, la suppression de la brigade anticriminalité, donc BAC. Hein, très bien. Moi, je me demande quand même si c'est pas un petit peu inconsidéré comme proposition. Est-ce qu'on peut vraiment... faire confiance à certaines populations. En tout cas, est-ce que ça risque pas de relancer l'explosion dans les banlieues ? Voilà.
Monsieur le ministre de l'Intérieur, Laurent Mukeli, une question d'une auditrice, Marine des Hauts-de-Seine. Et Marine nous dit, ne risquons-nous pas de relancer l'explosion des banlieues en supprimant la BAC ?
Je comprends que cette concitoyenne me pose cette question. Encore une fois, dans les représentations qu'on nous avait bien martelées et bien enfoncées dans la tête ces dernières années, il est logique de penser ça. On nous a appris que les quartiers dits sensibles étaient des zones de non-droit, n'est-ce pas, où même la police n'osait plus rentrer, tellement à chaque coin de rue on pouvait se faire tuer. C'était tellement facile, hein, et quoi de mieux pour faire passer n'importe quoi que de faire peur aux gens en leur faisant imaginer, comme ça, des coupes-gorges en série. Alors, les choses sont évidemment beaucoup plus compliquées, et l'évolution négative, bien sûr, qui a eu lieu, la dégradation qui a eu lieu ces dernières années dans les zones dites sensibles, est liée à beaucoup de facteurs, y compris la façon dont y a agi la police. Et les brigades anticriminalité sont, c'est un fait, devenues un symbole d'une façon de faire la police qui, au fond, génère plus de problèmes que ça n'aide à en résoudre. Et il ne s'agit en aucune manière de mettre en cause personnellement, individuellement, les hommes et les femmes dans les brigades anticriminalité. Mais il s'agit de comprendre et de leur faire comprendre, mais je sais qu'une partie d'entre eux le savent très bien au fond d'eux-mêmes, leur faire comprendre que, encore une fois, cette façon, en réaction, en surplomb, dans le rapport de force, voire dans la violence, en finissant parfois par se comporter de la même manière que ceux que l'on critique et que l'on veut arrêter, cette façon de faire crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Il n'est point besoin, encore une fois, de faire peur aux gens pour être respecté. C'est ceci, je crois, qui est fondamental et qu'il faut que chacun comprenne bien. Ce n'est pas en faisant peur que l'on acquiert le respect. En faisant peur, on fait simplement taire les gens. On les réduit au silence par la menace. Nous allons sortir de cette idéologie et de cette époque où le policier devait imposer le respect, imposer l'autorité par la menace. Nous allons comprendre et nous allons travailler sur le fait que l'autorité découle de la légitimité. L'autorité, c'est la légitimité que celui qui est en face de vous vous accorde. Et il vous l'accorde non pas parce que vous avez un uniforme et encore moins parce que vous avez une arme. Il vous l'accorde parce qu'il respecte votre personne, votre institution, qu'il a a priori confiance en vous. C'est cette confiance que nous allons, et ce lien que nous allons rétablir partout sur le territoire, et en particulier dans les lieux où il fait le plus défaut, les quartiers populaires que vous avez nommés, mais je dirais aussi à l'autre échelle de la vie sociale, les milieux les plus aisés, où l'on a parfois le plus grand mépris pour les fonctionnaires, y compris les policiers et les gendarmes.
J'ai une question, monsieur le ministre de l'Intérieur, qui nous arrive via notre site internet. Question de monsieur Fofana, président d'une association de riverains dans le 93, qui demande comment comptez-vous améliorer l'image de la police ?
C'est aussi une bonne question. Et j'en ai parlé là aussi cet après-midi aux policiers de l'école de Nîmes. Les policiers sont, entre autres difficultés, à certains égards, on pourrait presque parler d'une souffrance professionnelle. Les policiers se sentent mal aimés. Et ce n'est pas une formule rhétorique ou c'est pas de ma part pour les caresser dans le sens du poil. Ils se sentent mal aimés, ils se sentent pris entre deux feux, incompris au fond des politiques qui les dirigent et par ailleurs incompris de la population. Bon. D'où certains replis sur soi aussi par moments. Il faut au contraire accepter que le policier soit pleinement inséré dans la société. Certes, il a un métier particulier, c'est un gardien de la paix. Néanmoins, on garde bien la paix à l'intérieur de la population, dans et pour la population, pas en dehors, comme si l'on était une armée d'occupation étrangère. Bon. Ceci est tout à fait fondamental. Nous allons donc retisser des liens. Les policiers vont accepter le regard extérieur, que ce soit d'ailleurs en termes de contrôle déontologique, où nous allons rétablir un type de contrôle extérieur à la police, et pas simplement l'inspection générale interne à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure. Nous allons rétablir ce contrôle, et par ailleurs, nous allons, je dirais, dans la vie quotidienne, eh bien, demander à la population, demander également aux élus locaux que cette police, oui, ne soit plus anonyme, que les policiers ne soient pas des gens interchangeables, mais soient des interlocuteurs, hommes et femmes, humains, nommés, reconnus comme tels, et acceptant également le regard des autres, comme tous les métiers et comme l'ensemble des services publics. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a plusieurs métiers de police, et non un seul. Disons quatre grands fondamentaux. Hein. La police de renseignement, ensuite la police de maintien de l'ordre, qui est un métier particulier, dont les effectifs aujourd'hui sont d'ailleurs disproportionnés, que nous allons réduire.
Si vous parlez des CRS en particulier,
les gardes mobiles. Les gendarmes mobiles, tout à fait. Il y a ensuite un troisième métier de police, la police judiciaire, celle qui fait les enquêtes pour démanteler les trafics, les filières, le crime organisé, arrêter les bandits, etc. Il lui faut, bien entendu, des moyens juridiques, techniques et humains. Et elle les aura. Et enfin, il y a une quatrième police, cette police de la rue, de la vie quotidienne, celle qui est au contact de la population. Cette police qu'on a appelée jadis proximité, quel que soit le nom qu'on lui donne, cela nous est égal. Ce qui est certain, c'est que c'est bien de cela qu'il s'agit et qu'on ira encore plus loin qu'on n'était jamais allé dans l'intérêt de tout le monde, la population comme les policiers.
Je vous remercie beaucoup, monsieur le ministre, et à très bientôt pour la séance des questions au gouvernement, je crois, mercredi prochain.
Merci à vous, monsieur.
Je suis le chanteur français, nouvelle génération, le nouveau king de la chanson. Je chante pas, je sais pas, comme je n'ai pas de voix, je n'ai pas le choix, je fais n'importe quoi. La la la, la la la, la 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 la, car c'est ça qu'il faut faire pour passer sur France Inter. Je joue avec les mots, ça plaît aux intellos gogo. Les mots, les motos, les vélos, les veaux, les pots, les popos, les... Roploplo. Je chante pas, je sais pas. Je suis sûr, c'est plus sûr. Et même si je savais chanter, je chanterais mal, exprès. J'imite Gainsbourg, l'inimitable. Je fais des rimes insupportables. C'est tellement gentil, c'est si nul, que je prends l'air niais, incrédule. La bêtise, ça rapporte gros. Merci les intellos, gogo. Je fais carrière sur France Inter. Je chante la gauche des bourges, qui est aussi la droite des courges. Je suis le chanteur français nouveau. Succès à gogo, intello. Faut dire, j'ai passé haut la main mon CAP de philo. J'ai le rythme binaire, ou d'Amérique latine, cucu praline, ou de l'accordéon d'entre les guerres. Nostalgie simplette, poésie franchouillarde, guinguette. Je fais du sous-brassins, du sous-brel. Je fais des sous, c'est tout, c'est chouette. Ce qu'il faut, c'est plaire aux jeunes gogos. Ils adorent consommer des CD, alors pourquoi se priver? Je chante pas, je sais pas, je suis sûr, c'est plus sûr. Et même si je savais chanter, je chanterais mal, exprès. Avant, j'étais mannequin, et c'est quelqu'un qui m'a dit: sois belle, un peu bébête, fais de la chansonnette. Tu as un joli corps, trois accords, ça suffit. Ça plaît bobo, ça plaît coucou, ça plaît beaucoup aux intellos gogo bien mou. Faut dire, ils comprennent tout, et pour ça, France Inter, c'est super. Ou bien, j'ai fait du sport, je suis grand, noir, fort, et je chante le soleil comme si je le vendais. Je chante faux, c'est beau. Quand t'es africain, chanter bien ne sert à rien. Je chante l'Afrique pour la liberté et le fric. Chanteur français, nouvelle génération. Plus c'est faux, plus c'est beau. Merci les médias intello. Ils daubent sur la Starac, c'est bien. C'est tout bénef pour Benjamin. Le pire dans la chanson française, c'est quand les comédiens s'y mettent. Alors là, c'est vraiment trop trop chouette. Ne pas savoir chanter n'empêche pas de chanter. Au contraire, si tu veux plaire, ne chante pas, c'est trop dur. C'est sûr, c'est plus sûr. Et comme autour, il y a des bons musiciens, même la chanson d'amour en France se porte bien. La 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 la. Merci France Inter.
Voilà, Pascal Coulant sur France Inter, 6 mai 2012. Le libéralisme est foutu, le printemps français, The French Spring, l'a emporté aux dernières élections avec 55% des suffrages. Surprise totale, aussi bien à l'intérieur de l'Hexagone que dans le monde entier. 18 ministres citoyens pour une réelle alternative ont été nommés. C'est le premier alter-gouvernement de l'histoire républicaine. Alors on a vu Utopie et Police, un défi pour le nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Mucchielli. Un autre défi de taille, c'est Utopie et Défense nationale. Quelle place la Défense nationale dans ce premier alter-gouvernement ? Nous rencontrons Philippe Lémary, nouveau ministre citoyen de la Défense, et nous le rencontrons avec Guy Ventil devant le chantier du Pentagone français, le Balargone.
mètres carrés au total, un pentagone à la française. Voilà comment le complexe était présenté. Situé dans le 15e arrondissement de Paris, il doit accueillir l'ensemble des états-majors et services de la défense. C'est le fameux plan Ballard, un chantier confié au groupe Bouygues et qui coûte la bagatelle de 3,5 milliards d'euros. Mais voilà, un haut fonctionnaire du ministère aurait transmis le cahier des charges du projet à un cadre dirigeant de Bouygues, ce qui laissait toutes les chances aux promoteurs d'obtenir le contrat. De son côté, Bouygues ne souhaite pas s'exprimer dans l'immédiat.
Voilà, c'est avec grand renfort de sirènes et de véhicules de sécurité que le nouveau ministre de la Défense vient pour cette visite officielle du grand chantier de ce qu'on appelle le Balargone, le Pentagone à la française, qui avait été lancé par le précédent gouvernement. Et on se retrouve, monsieur le ministre, en pied d'un magnifique avion de guerre qui s'appelle Marcel Dassault d'ailleurs. C'est écrit sur la queue, c'est un Mirage 3 qui est là devant ce site. Sur ce chantier qui doit durer jusqu'en 2014 et qui hébergera le commandement interarmé de l'armée française. Et ce site qui, vous le dites, pose un problème en termes de partenariat public-privé. C'est une de vos premières grandes mesures que vous annoncez, l'annonce d'un audit.
Oui, il hébergera aussi le ministère de la Défense. Ça va être un regroupement parce que les commandements étaient répartis sur une quinzaine de sites sur Paris. Il y aura une dizaine de bâtiments principaux organisés autour d'une cour hexagonale, si on peut dire. Ça va être formidable, hein, avec un centre sportif, avec tout ce qu'il faut en restauration, en hôtellerie, en salle d'entraînement, etc. Tout ça n'est pas contestable, mais ce qui est très gênant, et c'est la raison pour laquelle on va essayer de remettre ce contrat sur le métier, c'est qu'on entre dans un ministère qui est en fait privé, qui est la propriété de Bouygues, à qui a été concédé et la construction, et le financement, et la gestion, sous tous ces aspects, hein, pas seulement le chauffage, si vous voulez, mais également la restauration, le gardiennage. Toutes les fonctions de cet ensemble de bâtiments pour 30 ans sont confiées à Bouygues. Il a les clés et ensuite on lui paye un loyer annuel de 130 millions d'euros, ce qui, en addition sur 27 ans, c'est la durée du contrat, fait quand même 3,5 milliards d'euros à peu près. Ça fait beaucoup.
Alors que l'estimation du coût de construction est autour de 600 à 700 millions d'euros.
Voilà.
C'est-à-dire que ça fait une marge assez confortable.
Oui, on va essayer de revoir tout ça et de voir s'il n'y a pas moyen d'échapper à cette emprise de ce qui a été quand même le grand du bâtiment du BTP. Il l'est toujours d'ailleurs. Le propriétaire de TF1, très proche de l'ancien régime. On n'est pas contre, il va être sans doute l'ami du nouveau régime. Toutes ces grandes sociétés sont habituées à faire la bascule. Mais tout de même, on va pas. Je suis un peu gêné d'entrer dans ce ministère uniquement privé. On n'entre pas chez nous.
C'est-à-dire que voilà, on est locataire. La défense de la nation voilà. Est locataire. Or, tous les secrets de l'armée française sont dans les murs de Bouygues.
Nous demandons les clés à Bouygues régulièrement pour pouvoir entrer chez nous. Mais ça n'est pas chez nous, c'est plutôt chez eux. Alors c'est quand même, vous le savez, une fonction qu'on appelle régalienne, celle de la défense, à tort ou à raison. C'est même l'ultime fonction, c'est celle qui est la plus réservée à l'État. Il y a un problème de limite, si vous voulez, au minimum. Oui, cette histoire de Pentagone à la française, ça fait un petit peu comme si on courait derrière les Américains. Comme pour l'avion présidentiel, vous savez qu'on avait surnommé le Air Sarko One.
Il va être débaptisé, c'est ça?
Édition spéciale, élection 2012.
Voilà, on s'arrête ici. Alors, on est accueillis dans le mess, qui est déjà installé.
Alors, à l'occasion de cette visite du Pentagone français en construction, quel diagnostic faites-vous, monsieur le ministre, de l'état de nos forces armées?
Ouais, à l'échelle européenne, c'est pratiquement... Il y a deux armées importantes, la britannique et la française. C'est la quatrième armée du monde, finalement, en budget. Enfin, ça dépend des critères, on pourrait discuter, mais c'est tout de même important. C'est lourd à porter, budgétairement, pour un pays, la France, qui est une puissance moyenne aujourd'hui et qui a du mal à tenir ce rang, en quelque sorte, qui est un rang sans doute exagéré par rapport à ses possibilités réelles. Elle n'a pas les moyens de ses ambitions, comme on dit.
Plus de 9 opérations extérieures lancées au cours de 2011.
Ce qu'auront coûté ces opérations l'an dernier, c'est quand même important, c'est un surcoût de 1 milliard 200 millions d'euros, en plus du coût habituel des militaires.
Une des grandes mesures que vous prenez, c'est de revenir sur ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, le précédent président de la République, c'était le retour de la France dans les instances décisionnelles de l'OTAN.
Oui, il y a eu véritablement un suivisme à l'égard de la politique américaine toutes ces dernières années. Il va falloir essayer de recentrer nos alliances, d'examiner tout ça à la lumière de nos intérêts à nous, véritables. Et dans ce contexte, la réintégration totale au sein du commandement militaire de l'OTAN, l'alliance transatlantique, comme on dit, qui était un pacte de défense, en fait, contre l'ancienne Union soviétique. Désormais, l'Union soviétique n'existe plus et l'OTAN a cherché à se maintenir de manière plus ou moins artificielle, alors qu'il n'y avait personne en face, si on peut dire. Et c'est une organisation qui, donc, maintenant, a un côté défense de l'Occident qui pose au minimum question. Et je crois qu'on a été trop loin, là, dans le retour. Du coup, c'est une chose qui va être à revoir. Hein.
Monsieur le ministre, si vous voulez bien, on va continuer la visite en sortant du mess pour continuer la visite du chantier du Balargone, le Pentagone à la française.
Dernier point, monsieur le ministre, et point d'importance, vous avez annoncé récemment aussi la fermeture de toutes les bases militaires françaises en Afrique. Et j'aimerais faire le lien entre cette mesure qui a été prise avec un autre programme que vous avez lancé de rouverture des archives, en particulier sur les pages sombres des opérations militaires françaises, en particulier lors de la décolonisation en Afrique, au nom d'une résilience, d'une réconciliation du peuple français avec son armée en mettant sur la table ces histoires de torture, ces histoires de répression, ces histoires de ratonnade.
Alors vous avez un sens de la synthèse qui est formidable.
Alors, je vous remercie, monsieur le ministre.
Il y a plusieurs choses. Effectivement, la fermeture des bases, vous savez, 60 ans après les indépendances africaines, il est plus que temps d'en finir avec ce qui est une espèce de...
Certains parlent de post-colonialisme.
Oui, mais c'est le cas. C'est une... Même la Grande-Bretagne, qui avait pourtant des prétentions très fortes, même l'Espagne, le Portugal, qui ont eu leur colonie, n'ont pas laissé ainsi des bases, des militaires sur place de cette manière.
Puisqu'on est en Djibouti, on est en Côte d'Ivoire,
au Sénégal, jusqu'à récemment au Sénégal, au Gabon, au Tchad. Non, il y a encore un réseau important qui est en cours de rapatriement, de fermeture progressive. Mais là, il va falloir être net et donner le coup d'arrêt final, si on peut dire, à cette politique qui était vraiment anachronique et hors du cours actuel des choses. Il faut développer la coopération militaire avec nos partenaires africains de ce côté-là. Il faut profiter de cet outil que nous possédons et qu'on nous envie hein, dans un certain nombre de pays. On ne va pas l'abandonner, ça va de soi. Mais de lui donner aussi une vocation plus utile sur un plan international, c'est par exemple la création de cette filière de forces de paix, de casque bleu à la française, si vous voulez, qui pourra être utilisée dans des tâches de maintien de la paix, de maintien de l'ordre, dans des situations de post-conflit, à la demande de l'ONU.
Donc, si je comprends bien, les chefs d'état-major interarmés que vous allez retrouver tout à l'heure, vous allez leur proposer cette idée de développer une filière interarmée de casque bleu à la française.
Oui, je crois qu'il y a un savoir-faire dans ce domaine. c'est aussi essayer de développer un esprit de défense qui ne soit pas seulement une espèce de patriotisme ou l'apanage d'une communauté de défense fermée, mais quelque chose de beaucoup plus élargi. On peut essayer d'élargir au musée de l'armée la manière dont les événements sont présentés, les événements du passé, pas seulement les événements glorieux, mais aussi les turpitudes, les répressions, la manière dont les armées se sont comportées. Ça demande à être exposé, discuté calmement, pour que l'ensemble de la nation se réapproprie un petit peu toutes ces réalités, n'ait pas peur des armées, comprenne à quoi ça peut servir, et en même temps faire en sorte que les armées ne soient pas enfermées
dans un bunker.
Dans un cocon, dans un bunker. Parce que c'est dangereux. Hein. Le passé, l'histoire a montré qu'il valait mieux l'éviter.
Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse poursuivre la suite de votre visite. Et nous suivrons ces débats ouverts sur la chose militaire et les prochaines mesures annoncées par le gouvernement.
Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Merci à toutes et à tous. C'était le second volet de notre édition spéciale sur le coup de tonnerre du 6 mai 2012 qui a vu, je vous le rappelle, la défaite historique du libéralisme et l'avènement de l'alter-gouvernement, le premier alter-gouvernement de l'histoire. Demain, troisième volet avec d'autres invités, d'autres ministres citoyens. Merci à Clarisse Taron, ministre de la Justice, Laurent Mucchielli, ministre de l'Intérieur, et Philippe Lémarie, ministre de la Défense. Merci également à notre journaliste, grand reporter Guy Ventil, qui a recueilli les premières déclarations des membres de ce premier alter-gouvernement de l'histoire. Le programme de l'alter-gouvernement est disponible aux éditions Le Muscadier, sous le titre Alter-gouvernement, 18 ministres citoyens pour une réelle alternative. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez faire des commentaires. Également sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que 1700 numéros de Là-bas si j'y suis quand même sur là-bas.org. Et vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook à la technique aujourd'hui. Sandrine Laurent et Philippe Duclos, Bertrand Chometon et Franck Adhéraire ont réalisé cette émission assistée de Marina Touillez et Grégory Salomonovitch. Attend quant à lui vos messages au répondeur de Là-bas si j'y suis, qui est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et merci à nos camarades du téléphone sonne que vous retrouverez tout à l'heure sur France Inter, où il est 16h. On se retrouve demain à 15h pour la suite. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
Cinquante-deux départements sont toujours placés en vigilance orange au grand froid cet après-midi. Le plus dur avec ces basses températures, c'est pour les sans-abri. Aujourd'hui, 200 militants et acteurs sociaux ont créé une pyramide de matelas devant la préfecture de Toulouse. Par cette action, ils pressent l'État de fournir un toit à tous les sans-abri et de ne pas se soucier d'eux uniquement quand il fait froid. Une erreur magistrale, un scandale, une folie. Nicolas Sarkozy n'a pas lésiné sur les mots ce matin pour dénoncer la volonté socialiste de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace si le PS remporte l'élection présidentielle. Le chef de l'État a parlé de raisons politiciennes, accusant sans le nommer François Hollande de vouloir glaner des voix. En marge de sa visite, Nicolas Sarkozy a reçu une délégation quand même des associations antinucléaires qui, elles, réclament la fermeture de la plus vieille centrale nucléaire française. Pour Eva Joly, la candidate d'Europe Écologie Les Verts, Nicolas Sarkozy choisit le gaspillage de l'argent public. Pas encore candidat donc, Nicolas Sarkozy, mais il est déjà à la manœuvre dans la campagne électorale. Dans le journal Le Monde et dans une interview à paraître samedi dans le Figaro magazine, le chef de l'État envisage des référendums sur des sujets de société, notamment sur le droit des étrangers ou encore les obligations des chômeurs. À propos des demandeurs d'emploi, il pourrait demander aux Français de se prononcer sur la question suivante. Un chômeur a-t-il le droit de refuser une formation ou un emploi? C'est une idée pernicieuse qui montre une perte de contrôle, selon François Bayrou, le candidat du Modem. Mario Draghi, confiant pour la Grèce, le président de la Banque Centrale Européenne, a déclaré aujourd'hui que toutes les pièces du puzzle vont s'emboîter. Après les négociations marathon, les principaux partis politiques grecs sont donc parvenus à un accord aujourd'hui sur les nouvelles mesures réclamées par les bailleurs de fonds en échange d'un nouveau prêt de 133 milliards d'euros. La police espagnole a procédé aujourd'hui à l'interpellation de 57 personnes. Elles sont poursuivies pour la détention et l'échange en ligne de vidéos à caractère pédophile. J'ai dit une imbécilité, les regrets cet après-midi de Jean-Paul Guerlain. Le descendant de la célèbre maison Guerlain comparaissait devant le tribunal correctionnel de Paris pour ses propos tenus en octobre 2010 sur France 2. Lors d'une interview dans le journal de 13h, il avait suscité la polémique en avouant avoir travaillé comme un nègre. Je ne sais pas, avait-il dit, si les nègres ont toujours travaillé tellement, mais enfin, je suis tout sauf raciste, a plaidé aujourd'hui Jean-Paul Guerlain. Serge Letchimy a été accueilli chaleureusement hier soir à son arrivée à Fort-de-France. 300 à 400 personnes étaient présentes. Le député martiniquais a reconnu s'être entretenu avec Claude Guéant dans le bureau de Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale. Mais il dit être resté sur ses positions. Mardi, à l'Assemblée, le député apparenté socialiste a suscité un tollé en parlant de nazisme pour évoquer les propos de Claude Guéant, selon lequel toutes les civilisations ne se valent pas. Le ministre de l'Intérieur est attendu en Guadeloupe, lui, et en Martinique à partir de samedi. Mais Serge Letchimy lui a déjà signifié qu'il n'était pas le bienvenu. France Télécom Orange lance aujourd'hui son offre dite sociale, 23 euros pour le téléphone fixe et l'internet illimité. Cette offre est destinée aux bénéficiaires du RSA et répond aux conditions fixées par le gouvernement, comme l'opérateur s'était engagé à le faire en septembre dernier. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Quand la musique donne, Didier Varro.
Rock, musique électro, techno,
chansons, rap.
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
Quand la musique donne, les styles se croisent, se rencontrent et s'interpellent. Le groupe R, en pleine alunissage sur la planète fantastique de Georges Méliès, confronte sa vision du cosmos artistique avec Yael, nouvelle ambassadrice dans le monde du son électronique français.
Quand la musique donne, demain sur France Inter, à partir de 16h. France Inter. La différence.
Bonjour Frédéric Claudéon, vous êtes bientôt aujourd'hui.
Ah bah oui, oui, de très beaux artistes, Nathalie Dessay et Philippe Cassard. À bientôt.
Amusez-vous bien.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, vous l'avez entendu, Nathalie Dessay est avec nous. Bonjour chère Nathalie.
Bonjour Frédéric.
Et puis Philippe Cassard, bonjour Philippe.
Bonjour Frédéric.
Alors vous êtes toujours en mouvement, mais vous avez quand même pris le temps de passer par ici, en l'honneur de Debussy. Debussy dont on célèbre cette année le 150e anniversaire de la naissance. Et un très beau disque vient de paraître, ça s'appelle Clair de Lune. Ce sont des mélodies, je crois que c'est vous le maître d'œuvre. C'est vous qui avez demandé...
C'est sa faute.
C'est sa faute, voilà, exactement. Voilà, cafeté maintenant, allez.
Elle a tout dit, ben voilà. Le maître d'œuvre, c'est-à-dire que j'ai écrit à Nathalie parce que on venait de me faire don de 4 manuscrits absolument inconnus de mélodies de Debussy de jeunesse qu'il a écrit quand il avait 18-20 ans. C'est donc incroyable. Enfin, en 2012,
un trésor.
On découvre encore des mélodies de Debussy. Il y avait la plus longue, Les Elfes, qui fait 7 minutes et quelques. Et puis la plus courte, Le Matelot qui tombe à l'eau. Puis deux autres, une romance et L'Archet, dont on avait des esquisses. On savait. Alors j'ai vu que ces mélodies avaient été écrites quand Debussy était très amoureux de Marie Vanier, qui était une femme mariée, mais chanteuse amateur, soprano léger.
Très belle femme.
Voilà, très belle. J'ai dit, il faut aussi une très belle femme pour les chanter. Et il faut aussi une merveilleuse chanteuse pour les chanter, pour leur donner vie. Et du coup, j'ai écrit à Nathalie qui m'a répondu. Alors tu peux toujours dire que je t'ai contraint et forcé. Tu m'as quand même répondu.
Oui, je t'ai répondu, mais non.
Non, tu m'as dit
au début,
ni oui ni non.
Mais pourquoi ? Ça vous changeait trop de l'opéra ?
Non, c'est-à-dire parce que je trouve ça difficile comme exercice. C'est-à-dire que moi, j'adore la mélodie, je trouve ça très très beau et j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour les chanteurs qui en font. Et justement, je trouvais ça trop difficile pour moi. Il faut dire que je suis un peu feignante aussi.
Hein. Ça on ne croit pas du tout. Enfin bon, vous êtes sur scène tout le temps. Alors.
Oui, non, mais c'est-à-dire que j'ai toujours des problèmes avec la mémoire. Donc pour moi, un récital de mélodie, ça doit être par cœur, ça doit se faire avec classe.
Pourquoi un beau pupitre en nez, vous savez.
C'est
en,
moins bien.
Ancien.
Alors du coup, je j'avais pas trop le courage. Et puis en fait, je lui ai dit, bon, écoutez, amenez-moi toujours les 4 et les 10, si vraiment c'est bien et ça vaut la peine. C'est vrai que c'est toujours un honneur de créer des œuvres qui ne l'ont pas encore été, et surtout de Debussy, dont on sait aujourd'hui que c'est un génie.
Ah bah oui, depuis un certain temps quand même. On a dit que Debussy faisait fuir certains, c'est vrai. Et non pas Chopin, comme j'ai lu hier dans un beau magazine. Chopin, non, il a été accepté par tout le monde tout de suite, comme chacun le sait presque. Et donc nous allons entendre la première mélodie de jeunesse de Claude Debussy, la première qui a été imprimé, on peut dire, qui a été édité, c'est Nuit d'étoiles, alors qu'il était dans un beau salon, il travaillait avec une certaine Madame Moreau-Sainty, qui donnait des leçons à des dames du monde.
Voilà, puis il jouait du Wagner, et il y avait des séances Wagner chez Madame Moreau-Sainty, et il jouait les parties d'orchestre, il les faisait au piano, et il chantait tous les rôles. Il était très réputé pour ça chez Madame Moreau-Sainty.
Oui, mais alors qu'est-ce qu'il a pu dire contre Wagner aussi, après?
Il y a eu la guerre aussi, c'est pour ça, c'est quand après, il y a eu quelques tensions.
Peut-être qu'il a souffert chez Madame Moreau-Sainty, justement.
Je sais pas, parce qu'il a
cause de Wagner.
C'est là qu'il a rencontré la belle Marie, quand même, la belle, cette belle cantatrice à qui il a dédié après, je ne sais pas, plus d'une dizaine de...
Ah oui, de elle était mariée.
Vie. En plus, oui, plus âgée que lui, et mariée.
Et il y a eu quand même, à mon avis, une petite affaire entre eux.
Bien sûr, c'est évident.
C'est sûr.
Pour lui avoir écrit si belle chose.
Il est prude, quand même. Il y a peut-être, il dit.
Il y a peut-être, oui, sûrement.
Nous, on est sûrs, n'est-ce pas, Nathalie?
Oui.
Quoi qu'il en soit. C'est Pierre Bouteiller qui disait toujours ça à l'antenne. Quoi qu'il en soit, Nuit d'étoiles.